Bien, donc on est toujours dans le livre des juges, et puis cette semaine je montrais un petit dessin à mon épouse et puis à mon fils d'un prédicateur et puis c'était bon, une sorte de caricature hein, par rapport à ces prédicateurs qui prennent beaucoup beaucoup de temps pour leurs études bibliques et qui vont dans les détails, etc. Et puis c'était du genre aller dans tel livre, tel chapitre, tel verset, tel mot, et puis la lettre E. Bon, je suis pas encore à ce niveau-là de prendre juste la première lettre ou la dernière lettre, et puis de n'importe quelle lettre, et de dire plein de choses à ce sujet-là. Mais c'est vrai que la dernière fois, on est passé en vitesse sur ce verset 31 à propos de Shamgar, hein, chapitre 3 du livre des juges, Shamgar. Et quand j'ai pris le temps de regarder, on trouve des choses. On trouve des choses intéressantes tout de même. Et puis, je tenais à les partager avec vous aussi ce soir. Shamgar, hein, ce juge mystérieux. Hein, mystérieux, pourquoi? Ben, à part ce verset-là, nous avons simplement un autre verset au chapitre 5 qui mentionne ce nom de Shamgar. Mais la Bible, elle regorge d'histoires, de récits, de personnes tout autant mystérieuses, parfois même plus mystérieuses, parce qu'il y en a plein, on ne connaît même pas leur nom. Hein, où ils apparaissent brièvement dans un récit de la Bible, et le Seigneur va les utiliser, les employer de manière extraordinaire, avec puissance, et pourtant ils sont inscrits là, ils sont inscrits dans la parole de Dieu pour l'éternité, et ils nous enseignent. Hein, quand on pense à de ces fameux inconnus, hein, on peut penser par exemple à la servante de Naaman, on ne connaît même pas son prénom, hein, cette jeune fille. On peut penser à la veuve de Sarepta, pareil, le jeune garçon au pain et poisson, la femme hein, qui a oint les pieds du Seigneur et a lavé les pieds avec ses cheveux et ses larmes. Mais voilà, il y a toutes sortes de personnes comme ça où on ne connaît pas les noms, et des personnes comme Shamgar, où voilà, il y a juste deux versets qui vont mentionner cette personne. Mais ce verset 31, hein, je vais le relire, après lui, donc après Ehud, il y eut Shamgar, fils d'Anath, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et donc ce Shamgar, hein, ce juge mystérieux, même si on n'a pas énormément d'indices par rapport à qui il était, on sait ce qu'il a fait. On n'a pas beaucoup d'éléments pour en faire un grand portrait, un long portrait, hein, aussi détaillé que pour les autres juges, mais il y a des choses intéressantes à noter et des leçons à en tirer par rapport à Shamgar et à ce qu'il a accompli pour Israël, pour l'Éternel. Mais d'abord, hein, on sait que la situation du pays d'Israël, du peuple d'Israël pendant cette période des juges est une situation extrêmement difficile. Mais par rapport à Shamgar, on se dirait, bah tiens, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit sur la situation dans le pays d'Israël, hein, qu'est-ce qui se passe exactement hein, par rapport à ces Philistins, pourquoi est-ce qu'ils en voulaient hein, au peuple d'Israël et il faut attendre le chapitre 5, en fait, chapitre 5 et verset 6, dans le fameux cantique de Déborah, où nous lisons « Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. » Donc voilà, chapitre 3, verset 31, chapitre 5, verset 6, les deux seuls versets qui nous donnent des informations concernant Shamgar, concernant l'état du peuple d'Israël à cette époque. Donc ce qu'on comprend, c'est que la situation était si terrible que personne n'osait emprunter les chemins, les routes. Hein, personne osait vraiment voyager, et s'il voyageait, il prenait des chemins détournés. Parce que dans cette région où il se situait, effectivement, la situation était sans doute extrêmement dangereuse à cause des oppresseurs. Ils avaient probablement peur hein, de sortir hein, parce que ils craignaient pour leur vie, ils craignaient les attaques. Et donc ça nous donne une image d'une société quelque part qui, on va dire, qui est presque sur le point de s'effondrer. Hein. On a parlé tout à l'heure d'insécurité, mais on sait que quand il y a de plus en plus d'insécurité dans un pays, on sait que le pays est au bord de la rupture, n'est-ce pas? Et là, on a cette notion, hein, dans le verset 6 du chapitre 5, qu'il y a cette insécurité qui règne en Israël à ce moment-là. Et l'insécurité, bien sûr, va engendrer la crainte, va susciter aussi l'abandon, hein. Les gens partent lorsqu'il y a de l'insécurité. Et donc, le pays semble dépérir. Il semble qu'en plus de cette oppression qu'Israël subissait, il y avait, hein, de la part des Canaanites, il y avait ce peuple de Philistins. Et c'est un peuple qui, comme on va le voir, va avoir pas mal d'altercations avec le peuple d'Israël. Mais chose intéressante, et vous l'avez probablement noté, puisqu'on a vraiment que deux versets qui nous parlent de la situation, c'est que contrairement aux situations précédentes auxquelles ses prédécesseurs ont fait face, ici, il n'y a aucune indication ou raison spirituelle qui nous est donnée sur pourquoi la situation est ainsi. Bon, on le comprend par rapport, ben, là, la situation de l'époque des juges, voilà ce qui se passait, on sait que Israël, eh bien, a abandonné l'Éternel, servait d'autres dieux, et que l'Éternel châtiait, etc. Mais bizarrement, pour lui, il n'y a pas d'indication de la sorte. Hein, rappelez-vous, hein, dans Juges, au chapitre 3, verset 7, on a les mentions que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. Plus loin, verset 12, un rebelote, hein, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Mais là, on saute d'emblée, dans ce verset 31, aucune information sur vraiment la situation spirituelle du pays, mais il nous dit qu'il y a eu Shamgar après Ehud, et qu'il a battu, hein, 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Donc cet ennemi d'alors, c'était ce peuple philistin, un peuple guerrier, probablement originaire des îles de la mer Égée, probablement de la Crète, et qui s'était établi dans la partie sud-ouest du pays. Et c'était un peuple qui était déjà présent à l'époque d'Abraham. Hein, dans Genèse 21, il nous est même dit qu'Abraham avait longtemps séjourné parmi les Philistins. Leur territoire, également appelé dans les Écritures Philistie, hein, comprenait cinq grandes cités, Asdod, Gaza, Ascalon, Gath et Ekron. Et ces cités servaient vraiment de centre à leur civilisation. Mais ce que nous révèlent les Écritures, c'est que ce peuple a été pendant longtemps une source de malheur pour Israël. Outre le livre des Juges, hein, qui les mentionne une trentaine de fois, hein, il y a d'autres livres où on va les retrouver, mais d'ailleurs dans le livre des Juges, c'est surtout, hein, avec le récit de Samson, mais le premier livre de Samuel est le livre où les Philistins sont le plus mentionnés, hein, plus d'une centaine de fois. Hein, les Philistins sont mentionnés dans le premier livre de Samuel. Donc voilà un peu la situation. Pas beaucoup de détails, rien qui n'est mentionné sur pourquoi les choses se sont produites comme elles se sont produites, mais nous savons, eh bien, que effectivement c'était une situation assez désastreuse, hein, où cette insécurité régnait de manière profonde dans le pays. La deuxième chose intéressante à noter également avec Shamgar, c'est que son nom ainsi que son origine ont suscité beaucoup d'interrogations et plusieurs commentateurs ont cherché à essayer de déterminer qui il était par rapport à son nom. Hein, il nous est dit qu'il s'appelle Shamgar, qu'il est le fils d'Anath. Et la première chose qu'on remarque, que les commentateurs et que les linguistes remarquent, c'est que ce n'est pas du tout un nom hébraïque. En fait, les linguistes semblent distinguer dans ce nom une origine hourrite. Hein, c'est une langue qui était notamment utilisée dans une grande et vaste partie, hein, du Moyen-Orient. Hein, on parle de l'Anatolie, donc une partie de la Turquie, hein, de la Mésopotamie, hein, Iran-Irak, mais même jusque dans le Caucase, hein, une partie de la Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Hein, c'est assez large par rapport à cette ancienne langue. Mais selon les linguistes, voilà l'origine de ce nom de Shamgar, qui signifierait don d'une divinité. Don d'une divinité. Mais l'autre nom qui est donné, c'est aussi qu'il est fils d'Anath. Et là encore, ce n'est pas un nom qui est d'origine hébraïque, mais c'est un nom qui serait peut-être même lié à une divinité païenne. Anath était une déesse cananéenne, hein, de la guerre, de la chasse, certains pensent même de la fertilité. Et tout ceci, donc, amène certains commentateurs à supposer plusieurs choses par rapport à Shamgar. Alors, soit c'était un païen qui s'est converti à l'Éternel, qui a décidé de suivre l'Éternel. Certains supposent que le nom Anath, hein, même l'expression fils d'Anath, en fait, c'était plus une expression pour le qualifier en tant que guerrier, un Shamgar le guerrier. D'autres ont également soutenu, hein, la thèse que peut-être qu'il venait, hein, de la ville de Beth Anath, appartenant à la tribu de Nephtali, et puis ça correspond à la région, hein, de la tribu, là où ces récits prennent place. Et donc Shamgar probablement appartenait à cette tribu également. Et une autre thèse, hein, ce serait que, bah, du fait de tous ces compromis du peuple d'Israël avec, eh bien, les peuples païens, eh bien, certains descendants de Jacob auraient adopté non seulement la culture et la religion environnante, mais aussi avaient donné, bah, des prénoms, hein, qui étaient d'origine, hein, de cette région-là. Mais on ne sait pas. Mais ça nous montre quelque chose d'assez intéressant. C'est que oui, il y a ce mystère qui plane sur ce Shamgar, sur son identité, mais il y a plusieurs choses qui pointent dans le fait que c'était quelqu'un qui était bien différent des deux premiers juges déjà qu'on a vus. Hein, Othniel, qui venait d'une grande famille, hein, de guerriers, qui avait servi l'Éternel, etc., ou même Ehud. Là, on a quelqu'un qui, vraisemblablement, peut-être avait cette origine païenne, à cause du nom qu'il portait. Mais au-delà de cela, c'est son action qu'il faut retenir. Parce qu'on sait que ce que l'Éternel, hein, va retenir, ce qu'il va regarder, on sait que l'Éternel, il regarde au cœur, mais il regarde aussi à ce que les gens vont faire. Et ici, Shamgar, il est inséré, hein, dans ce texte du livre des juges, il est qualifié comme un libérateur d'Israël, et donc son action parle pour lui, parle de qui il était, hein, pour Israël. Quelqu'un qui, finalement, il y a peut-être cette origine païenne qui lui est associée, mais qui a agi en faveur du peuple d'Israël à cause de cette situation avec les Philistins. Donc, outre son nom et son origine, ce qui est vraiment remarquable, c'est tout de même ce fait d'armes, n'est-ce pas? À savoir d'avoir utilisé un aiguillon à bœuf, un outil agricole, ce qui d'ailleurs certains pensaient qu'il était peut-être un fermier. Mais il a employé donc cet outil agricole, cet aiguillon à bœuf, pour éliminer 600 hommes des Philistins. Alors ce genre d'outils, hein, d'instruments, en fait c'était une sorte de bâton d'environ, hein, 2,5 mètres à 3 mètres de long, hein, sur lequel à une extrémité il y avait une pointe en fer, et à l'autre, eh bien, il y avait une forme comme celle d'une bêche, hein, qui était employée, notamment lorsque, ben, cet aiguillon, il était utilisé pour diriger les bœufs, hein, lorsque ils étaient en train de remuer la terre, hein, et s'ils déviaient, il utilisait le pic, mais il utilisait aussi cette partie avec la bêche pour nettoyer, par exemple, la terre, l'argile, enlever, hein, les racines qui seraient coincées, hein, dans les socs de la charrue. Mais voilà, c'est quand même extraordinaire, ce fait d'armes d'un homme avec une arme qui n'en est pas une, et qui va néanmoins réussir à défaire 600 soldats des Philistins. L'étrangeté, hein, du salut, hein, divin est vraiment soulignée par les instruments singuliers que l'Éternel emploie parmi, ben, les hommes, mais même ces hommes avec les outils ou les armes qu'ils ont employées contre l'ennemi. Hein, Ehud, il a utilisé un poignard artisanal. Plus tard, on verra Yaël, hein, qui a utilisé un marteau et un pieu. Shamgar, lui, a utilisé cet aiguillon à bœuf. Et c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendrait, hein, à voir de la part de quelqu'un qui va libérer le peuple d'Israël, hein, de quelqu'un qui va combattre l'ennemi et le mettre en déroute, n'est-ce pas? La leçon ici, je crois que c'est aussi que Dieu peut donner la victoire avec des moyens qui nous paraissent, nous, comme étant entièrement insuffisants et pas adaptés du tout pour la victoire. Mais même ce récit n'est pas sans rappeler celui d'un jeune berger, quelques siècles plus tard, qui, à l'aide d'une fronde et d'une pierre, va terrasser un géant et mettre en déroute l'armée des Philistins. Ou même encore, hein, le fait que on ait, hein, des personnes qu'on a mentionnées, hein, qui, en apparence, qu'est-ce qu'ils pourraient bien apporter pour l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire pour l'Éternel? Comment est-ce qu'ils pourraient libérer son peuple? Donc, puisque son nom, hein, Shamgar, ainsi que son fait d'armes, nous sont révélés dans la parole de Dieu, nous comprenons aussi que c'est l'Éternel qui a agi et c'est l'Éternel qui s'est servi de Shamgar pour délivrer Israël. Et ce succès militaire, donc, quelque part, je pense aussi, a donné un exemple pour les juges suivants, puisque Déborah va également le mentionner dans son cantique, n'est-ce pas? Et si elle le mentionne, c'est qu'elle connaît les faits d'armes. C'est qu'elle a eu cette connaissance de ce que cet homme a pu accomplir, hein, par l'Éternel. Alors, oui, on a énormément de choses qu'on pourrait tirer encore de ces quelques versets, hein, du verset 31 et du chapitre 5, verset 6. Mais je trouve ça extraordinaire de voir que on a ici un tout petit trésor, une petite pépite, hein, que l'Éternel nous donne. Hein, il aurait pu passer inaperçu, hein, et je crois que pour beaucoup, il passe inaperçu. Mais là, l'Éternel a choisi de le mentionner dans sa parole et de montrer même que, avec pas grand-chose, simplement un outil, pas une arme, mais encore une fois avec quelqu'un qui est disposé, qui est prêt, et que le Seigneur va fortifier et encourager, on va voir quelqu'un qui va pouvoir accomplir des grandes choses grâce à l'Éternel. Donc ensuite, oui, dans le chapitre 4, hein, s'ouvre une autre période, hein, celle de Déborah et de Barak, et nous aurons l'occasion, hein, la semaine prochaine de voir cela un peu plus en détail. Mais je me sentais mal de passer comme ça sur Shamgar et de ne pas souligner, juste c'est quelque chose par rapport à qui il était. Hein, encore une fois, on n'a aucune certitude, mais juste de penser à la possibilité que c'était peut-être un prosélyte, un païen, qui sait. Peut-être que oui, il était issu de la descendance de Jacob et que sa famille avait tellement adopté le style de vie des Cananéens qu'il leur avait même donné ce nom-là. Le fait que ce nom de fils d'Anas soit un nom qui est associé à une déesse cananéenne, il y a tellement de choses qui nous donnent une idée, hein, un aperçu, hein, de son arrière-plan. Mais malgré cela, bien l'Éternel va l'employer. Et c'est ce qu'on voit fréquemment à travers les Écritures, hein, que malgré qui les personnes sont et leur environnement, leur arrière-plan, l'Éternel peut et les a employés. Hein, comme on l'a vu faire, hein, dans le livre de Josué avec Rahab, la prostituée. Et puis ça nous fait penser aussi un peu aussi à un autre juge qui aussi avec même pas une arme, même pas un outil, mais qui va aussi combattre les Philistins avec une mâchoire, n'est-ce pas? Une mâchoire d'animal, et à mettre en déroute également des Philistins. Mais bon, je voulais vraiment prendre le temps de souligner hein, ces choses à propos de Shamgar, et pas juste le mettre de côté, dire bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, il n'y a qu'un seul ou deux versets sur lui, et de négliger cela. Est-ce que vous avez des... Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires hein, sur juste ce petit verset, mais si vous en avez, hein, n'hésitez pas.
C'est beaucoup.